D'un côté, Nimrod, de l'autre côté, Lot. Deuxième génération, c'est Isaac. Alors, dans la première série, ceux qui sont les adversaires, c'est Abimelech. Abimelech, c'est le nom des rois, des dynasties de rois de la Philistée du temps. Et, vous savez ce que c'est que la Philistée, territoire de Gaza. Les Romains ont pris ce nom de Philistée pour en faire le nom de Palestine, des usurpateurs contemporains. Et puis, il veut couper Isaac de sa terre. C'est un nom de dynastie. Il y a un Abimelech au temps d'Abraham. Et déjà, cet Abimelech du temps d'Abraham propose une alliance à Abraham dans les termes suivants. Il est né Arxi Lefanecha, dit Abimelech. À cet Abraham, dont Dieu dit et redit, c'est ta terre. Abimelech dit, ma terre, installe-toi dans le ghetto que tu voudras. Et Abraham, dans sa générosité, dans sa, je sais pas comment dire, dans sa générosité de du tzaddik de la Midat HaChesed, débordant de charité, signe une alliance avec Abimelech, juste après le sacrifice d'Isaac. Comme pour dire, cet enfant pour qui je t'ai promis cette terre, rends-le-moi, puisque tu ne veux pas de cette terre. Et puisque tu entends dire d'Abimelech, le Philistin, ma terre, et tu signes. Vous voyez que le récit biblique est impitoyable, et qu'on ne peut pas ne pas le lire. Je pense souvent à cette question qui nous préoccupe beaucoup. Nous, quand je dis nous, c'est les rabbins sionistes. Comment se fait-il qu'il y ait tellement d'hommes qui étudient la Bible et qui ne voient pas ce qu'il écrit ? Et, je ne sais pas comment dire, peut-être ça ressemble au verset, ils ont des yeux, et vous connaissez la suite. Je reviens en tout cas au sujet. Voilà, Abimelech, il a aligné Nimrod. Nimrod veut détruire le peuple dans sa racine. Abimelech veut le couper de sa terre. Dans l'autre série, c'est Ishmaël. Vous voyez, cette identité approximative qui s'instaure en rivalité et qui réclame l'héritage d'Abraham l'Hébreu. Et là, c'est tellement facile à dénoncer. Nous vivons cette histoire. Troisième génération, Jacob. Alors, Jacob est aux prises avec un homme de la lignée la plus proche d'Israël, celle qui vient du frère d'Abraham, mais qui lui a refusé de redevenir hébreu. Il veut rester araméen, il veut rester galoutique, comme nous disons aujourd'hui. L'hébreu en galoute de Babel était Aram. Et alors voilà qu'une branche de cette famille redevient hébreu, c'est Abraham. Son frère Nahor veut rester araméen. Il fait souche, c'est Bethuel et c'est Laban. Laban, fils de Bethuel, fils de Nahor. Et le texte le nomme avec une accumulation d'adjectifs Arami. Laban à Arami. Et vous savez ce que dit la Gada de Pessah. Ve Laban bikesh la akor et akol. Et Laban a cherché à écraser tout. Pire que le pharaon qui voulait tuer les masculins, les mâles, et pour s'approprier des matrices et pour engendrer les valeurs hébraïques pour l'Égypte, mais Laban, lui, voulait tuer tout. Et qui est donc ce Laban? Il faut le diagnostiquer. Ça veut dire que c'est du sein même de la famille d'Abraham qu'un rival voulant annuler l'émergence de l'identité d'Israël apparaît, et je le caractériserai très formellement, ce sont ces juifs anti-juifs ou ces juifs anti-Israël qui, au nom de l'ancestralité galactique, s'opposent au projet d'Abraham. Dans l'autre côté, dans l'autre tableau, c'est Ésaü, le frère de Jacob, et qui prétend être Israël. Je voulais diagnostiquer qu'en mettant la chrétienté, le précédent c'était l'islam. Encore une fois, tellement énorme que ça manque d'humour, enfin de leur part. Et voilà qu'un septième personnage apparaît à des époques caractéristiques et qui est, j'attends le nom, qu'il est ce septième personnage avec qui nous aurons affaire, Amalek. Très bien. Je ne sais pas qui a dit Amalek, mais vous aurez 20 sur 20. Alors, Amalek. Effectivement, Amalek est un personnage qui se définit de deux manières. D'abord, il apparaît toujours dans les périodes de fin d'exil. Lorsque, sortant de son exil, l'identité d'Abraham redevient hébraïque. Alors Amalek survient. Et deuxièmement, il récapitule les deux prétentions, et détruire et remplacer. Et effectivement, on voit Amalek apparaître à la sortie d'Égypte. Vous vous rappelez ? Il va y avoir Amalek, Parashat Beshalach du livre de Shemot. Dès que Israël sort d'Égypte, le peuple hébreu redevient hébreu, sort de son exil et va retrouver sa terre, Amalek se détruit. Dans, à la fin du deuxième exil, le livre d'Esther tout entier, c'est le récit du conflit entre les Amalécites et les Judéens. Et le livre d'Esther ne parle que de cela. Ça veut dire que dès que l'identité judéenne du premier exil du royaume de Juda décide de décrocher du deuxième empire qui était la civilisation perse, après la civilisation de Babel, l'Égypte étant l'annexe de la civilisation de Babel, eh bien, surgit Amalek. Et grâce au miracle de la reine Esther, il ne s'est pas produit cette catastrophe que l'on puisse produire si Amalek avait fini par persuader Assuérus. Et de notre temps, l'État d'Israël contemporain est bien évidemment apparu à la fin d'un temps d'exil, à la fin catastrophique d'un temps d'exil, et a surgi en ce temps-là un Amalek contemporain, et qui a pour définition d'identité un programme bien précis, il ne se cache pas de le dire, détruire et remplacer. Hitler l'avait écrit dans Mein Kampf, et lisait aujourd'hui la charte palestinienne. C'est ce qu'il y a d'écrit en clair. Les juifs sont tellement juifs qu'ils ne veulent pas entendre ce dont sont les menaces. Et je me souviens du temps de Hitler. J'étais adulte quand Hitler a écrit Mein Kampf. Et je peux vous garantir, parce que j'ai lu ce livre, qu'il a écrit avec un cynisme inouï ce qu'il voulait faire. Il a commencé à le faire, on l'a laissé faire. Heureusement qu'il n'y a pas les cheveux. Vous êtes contemporain de la charte palestinienne et c'est très clair ce qu'il y a écrit dans la charte palestinienne. Bon, alors vous voyez bien que c'est bien cette histoire que nous vivons. Alors, je parle d'un côté des rivaux qui veulent détruire, de l'autre côté des approximations d'identité qui veulent remplacer, et ce personnage fatidique, le septième qui récapitule tout et qui apparaît au temps de fin d'exil. Dès qu'il y a Israël sorti d'exil, Amalek surgit. Et c'est à cela que nous sommes occupés dans les péripéties de l'histoire contemporaine, le peuple juif et Israël d'un côté et le monde entier de l'autre. Exactement comme l'avait raconté la Bible à partir de l'histoire d'Abraham. Je voudrais terminer cette analyse par le deuxième volet de l'équation de fraternité. Ainsi, l'être hébreu, le descendant de Hever, apparaît, et comme le raconte l'histoire, son problème, c'est l'amour des frères. Vous savez d'ailleurs, vous me permettrez d'ouvrir une petite parenthèse, que je vous citerai un principe de l'enseignement talmudique, que l'homme désigne comme idéal la vertu qui lui manque. C'est un peu le contraire de ce qu'on pourrait croire en culture occidentale. On pourrait dire la formule suivante, dis-moi en quoi tu crois, je te dirai qui tu es. En fait, le Talmud nous dirait, dis-moi en quoi tu crois, je te dirai ce que tu n'es pas encore. Parce que si tu y crois, c'est que tu n'es pas déjà. On désigne comme idéal la vertu qui manque. Ainsi, le Romain désigne comme idéal la charité. Mais le Romain, si vous connaissez l'histoire de Rome, c'est Ijdamim. C'est eux qui ont porté l'art de la guerre jusqu'où est arrivé. On dit qu'on les a un peu aidés, mais enfin quand même. Okay. Les Martiens. C'est qui était Mars, le dieu de la guerre. Les Romains, c'est des Martiens. Qu'est-ce qu'ils ont comme religion ? La charité. Vous voyez ce qui se passe ? De la même manière chez Ishmaël. Lorsqu'Ishmaël a voulu retrouver le dieu d'Abraham, il a cherché comme idéal la vertu de rigueur qui lui manquait. Il avait reçu la charité par héritage de l'identité d'Abraham, connaissait l'hospitalité d'Ishmaël. Okay. Ça s'est fait, c'est... Mais qu'est-ce qui manquait, le dîme ? Et lorsque l'islam s'est fondé, elle a appelé la religion d'un mot hébreu, din. Si vous connaissez l'arabe, comment l'arabe dit ? El-din. Donc, j'ai entendu parler de Saladin, qui était Salah el-din. Bien. Eh bien, qu'en est-il pour Israël de ce principe qu'on désigne comme idéal la vertu qui manque ? Et comme vous le savez, l'idéal d'Israël, c'est l'unité. Et nous désignons par là la vertu qui manque. C'est-à-dire, depuis le temps d'Abraham, nous sommes à la recherche d'un principe d'unité. Et vous voyez que je désigne quelque chose qui est tabou en société juive. Je me ferais interpeller si je parlais de cela en clair, comme je le fais ce soir d'ailleurs. Et je vous admire de ne pas m'interpeller. Vous devriez être épouvanté. Nous sommes la religion de l'unité et nous savons qu'il n'y a pas une société au monde aussi divisée que la société juive. C'est clair, okay. Vous savez que dès qu'il y a 3 juifs, il y a 4 partis et 25 présidents. Vous avez remarqué ça? Bon, ça c'est en passant. Mais les juifs savent cela, mais n'osent pas se l'avouer. Je vais vous consoler. Si effectivement nous avons désigné, on nous a désigné, l'unité comme l'idéal, c'est qu'on savait qu'en fait, donc, nous serons les seuls à pouvoir le réaliser. Il n'y a qu'une conscience qui perçoit ce qui lui manque, qui est sensible, mais encore en tension d'idéal. Bien, je reviens donc à notre problème. Eh bien, cette équation de fraternité, le patriarche va la rechercher encore beaucoup plus profondément qu'entre le frère et le frère. Entre le frère et le frère, c'est le point de départ, mais quelque chose de plus profond qui se cherche dans l'histoire des patriarches. Et c'est ceci. Au niveau du premier homme, eh bien, il y a un progrès énorme par rapport à l'animalité. L'animalité est désignée en termes de sexe, mâle et femelle, zahar mikeva. Alors que dès que l'homme apparaît, la Torah parle de époux et épouse. Il y a un niveau de reconnaissance d'autrui à l'intérieur de l'identité humaine lorsqu'il fait couple, qui est l'homme, un, qui se cherche dans notre histoire et dans notre récit. La première chose qu'Abraham a à faire quand il recommence l'histoire de l'homme, c'est se résoudre ce problème, que ce n'est pas suffisant. Et voilà que la Torah nous raconte qu'il avait 100 ans, et qu'elle avait 90 ans, et qu'il voyage en Égypte, la civilisation du temps. On oublie ce que je viens de dire. Il avait 100 ans, et elle avait 90 ans. Et le verset est clair. Alors, arrivé à la frontière de l'Égypte, au poste de douane, la Torah nous dit qu'il s'aperçoit qu'elle est belle. Comment il a mis 100 ans pour savoir ça? Et elle avait 90 ans. Avec le récit porte ailleurs. Ça veut dire qu'il s'est aperçu qu'elle avait cette beauté de celle dont on peut dire alors qu'elle est femme qu'elle est sœur. Et c'est cela qu'il avait à déclarer dans la situation du temps. Je vais essayer d'imaginer ça. Non pas imaginer, mais imager. Arrivant à la frontière de l'Égypte, les douaniers lui demandent « Avez-vous une déclaration à faire ?» Il dit « Oui, j'ai quelque chose à déclarer. Ma femme, c'est ma sœur. » Et ces béotiens-là n'ont rien compris du tout. Ils ont dit « Ah, elle est ta sœur. Alors on peut la prendre pour le pharaon puisqu'elle est belle. » Vous voyez ce qui se passe en réalité. Et ça a été ce voyage vulnérable d'Israël dans l'histoire de l'humanité. Il avait des messages à porter, des messages qui, lorsqu'ils ne sont pas compris, risquent d'être suicidaires. Je me base là sur un enseignement du Chabetzray. Et voilà l'exemple qu'il donne. Et il pose la question suivante. Il dit, les sacrifices, la Torah ne les permet que dans le temple. Comment se fait-il que le sacrifice de la fondation de notre histoire soit fait non seulement en dehors du temple, mais dans la terre de la plus grande impureté en Égypte? C'était le Pessah de Mitzrayim. Le sacrifice pascal de la sortie d'Égypte s'est fait en Égypte. Une question du Mitzrayim dans cette rachou. Alors, il donne un enseignement très important. Il dit en fait, on va prendre le premier exemple de la sainteté. Il y a deux saintetés. Nous sommes habitués à la sainteté dévoilée. Mais il y a une sainteté profonde qui est cachée dans le profane. La sainteté cachée dans l'impur est une sainteté, j'allais dire aussi, plus importante, parce qu'il faut la délivrer, que la sainteté déjà dévoilée. Il y a la sainteté dans la maison, dans le temple. Il y a la sainteté de l'en dehors. Et qu'il faut, faire émerger. C'est un thème extrêmement important, ça pourrait être le sujet d'une étude pour elle-même, et il nous donne cet exemple, en prenant, se basant sur des versets. Il y a aussi deux sagesses. Il y a la sagesse dévoilée, il y a la sagesse cachée. Alors, de la même manière, il dit, il y a deux amours. il y a l'amour qui est permis dehors et interdit dedans, c'est l'amour du frère et de la sœur. Et il y a l'amour permis dedans et interdit dehors, c'est l'amour de l'époux et de l'épouse. Il y a deux comportements de l'amour. Et le premier homme était déjà arrivé au premier époux-épouse. Le patriarche reprend ce problème, là où le premier homme l'avait laissé, et construit la deuxième dimension de la relation d'autrui à autrui dans le comportement d'amour. J'espère que c'est suffisamment clair ce que j'ai dit là. Vous avez dû remarquer d'ailleurs qu'un couple réussi, c'est lorsque dans ce couple on a réussi à être mari et femme et frère et soeur. Si on n'est que mari et femme, ça risque de basculer dans les scènes de ménage. Mais si on est et mari et femme, et frère et sœur, tout va bien, et on finit d'ailleurs par se ressembler. Et comment on les appelait ? Philémon et Poussine sont monsieur Philémon et Poussine. Et alors, je reviens au problème. Vous voyez de quoi s'occupe le récit biblique, alors que trop souvent, on en parle comme si c'était des anecdotes. Même des anecdotes pieuses, ça reste des anecdotes. Mais enfin, il s'agit d'une autre histoire et un niveau considérable. Je terminerai par cette image concernant le peuple juif. C'est la relation entre le juif et la Bible, la Torah pour nous en hébreu. Elle a deux aspects aussi, la Torah en tant que sagesse. L'aspect dévoilé, c'est l'aspect sœur qui vaut pour l'universel. Et l'aspect caché, l'aspect secret, c'est l'aspect épouse. Et là voilà que le peuple juif se balade dans l'histoire en disant « Vous voyez, ma femme, comme elle est belle, c'est ma sœur. » Et il parle de la Torah. Et je crois que c'était suffisamment clair, la dimension du niglé de la Torah dévoilée, elle est à la disposition de l'universel humain. La dimension du nistar de la Torah cachée, ça c'est l'épouse dans la maison et ça concerne personne d'autre. Mais c'est la même Torah. Alors il dit « C'est ta femme ou c'est ta sœur ?» Il répond la vérité, mais c'est ma femme et c'est ma sœur. Ah, c'est ta sœur, alors on va te tuer pour la prendre. Exactement l'histoire d'Abraham. Vous voyez comment Israël a vécu cette histoire. C'est un exemple de ce que je voulais vous exposer, c'est que nous vivons, en tant que société, en tant que peuple, l'histoire des patriarches. Et pour savoir nous situer, eh bien, il faut étudier la Torah. Mais pas comme des anecdotes, au niveau où elle enseigne. Et pour cela, notre doigt de lecture, c'est bien sûr le Midrash et le Talmud, mais pris au sérieux, et pas seulement comme des lectures pieuses du samedi après-midi, faire de la morale de vieillard à des intelligences d'en haut. Je le répéterai. Oui.
Cet amour, pas pour Ismaël, il lui donne des mots, il lui envoie, l'amour qu'il a, Abraham, pour Ismaël, et il lui a dit, ne t'inquiète pas, tu seras toi aussi un grand peuple et tout ça. Alors, deux grands peuples, là, avec le même amour.
Très bien, vous avez posé une question importante, et je dois vous signaler qu'il y a 1000 questions de ce type sur ce que nous venons de découvrir. Premièrement, ce que j'ai tenté de faire, c'est de faire découvrir qu'il y a une cohérence dans l'histoire que nous vivons, telle qu'elle est éclairée par le récit de la Torah. Et donc, c'est plein de problèmes. Donc, ce n'était pas mon sujet ce soir. Je vais vous demander d'être économe du temps. Je dois rentrer assez tôt. Et donc, je répondrai brièvement. Toutes les questions sont importantes, mais elles nécessitent de grands développements en vous renvoyant aux références que je vous ai données pour que vous les étudiez. Je vous remercie de votre question, mais rassurez-vous, il y a une réponse. C'est que nous sommes au point de départ de l'histoire d'Israël. Et Abraham a fondé la première vertu qui fera la conscience d'Israël. La conscience d'Israël, pour se constitue à travers trois vertus différentes. D'abord la vertu de charité, ensuite la vertu de justice, et après la vertu de l'unité des valeurs, qui est la vertu de vérité morale. Abraham est tout entier charité, c'est pas encore Israël. Est-ce que c'est clair? C'est pas encore Israël. Notre Torah, c'est la Torah donnée à Jacob. Si on se conduit comme Abraham et que cela, toutes les catastrophes, par exemple Ishmaël. Est-ce que c'est clair? Alors relisez ce texte et vous verrez que Abraham protège Israël et par charité. Et puis c'est son fils. Ishmaël, j'ai dit. Il y a, de la même manière, je vous donne un autre exemple, la prière d'Abraham pour Sodome et Gomorrhe. Pour qui il prie? Pour les pires Rechaïm de l'humanité. Dieu dit c'est des Rechaïm et Abraham prie. Je voudrais avoir le temps de vous dire que c'est son devoir. Lorsque la charité prie, c'est pour les pires criminels qu'elle doit prier. Est-ce que c'est clair? Bon. Et alors, regardez ce texte. Lorsque Sarah intervient, et Sarah, qui avait favorisé la naissance d'Ishmaël par générosité, elle croyait qu'elle était stérile, fléchissement de la confiance, mais elle voulait que ce qu'était Abraham puisse se perpétuer dans l'histoire des hommes, fût-ce à travers une matrice égyptienne, et ça c'est Ishmaël. Et alors, puisqu'il existe déjà, il existe. Et c'est Abraham qui plaide pour Ishmaël, alors Dieu entend la prière d'Abraham. Mais reprenez bien le texte. Ou Ishmaël se marticha. C'est Dieu s'adresse à Abraham en ce qui concerne Ishmaël, alors que Dieu est en train de dire à Abraham, il s'agit que d'Isaac, fils de Sarah. Abraham dit Ishmaël, Ishmaël, Ishmaël. Il dit, bon, eh ben, tu dis Ishmaël, Ishmaël. Ça nous a coûté cher. Laissez-moi finir. Je vais vous dire une chose que je vous demanderai de comprendre très simplement. Si Ishmaël était notre contemporain, il ferait partie de Shalom Marchand. Est-ce que c'est clair ce que j'ai là? Bon. Ça vous explique l'erreur de Shalom Marchand. Se prendre pour Abraham, et que ça. Alors que nous sommes Israël. Mais lisez ce que Sarah a dit. Garesh et ben Ahama Azot. Iloirash et ben Ahama Azot et ben Yitzhak. Si j'avais le temps, je vous indiquerai pourquoi ils sont différents, Ishmaël et Yitzhak. Le verset dit que Sarah a vu que Ishmaël riait, Netzachek, présent, alors il ne peut pas hériter avec celui qui rira au futur. Yitzhak. Ce thème-là, il me donnerait trop de temps, mais je vous l'indique, ne croyez pas qu'il s'agit d'anecdotes. Ce sont deux religiosités radicalement différentes, mais toutes les deux issues de la foi d'Abraham qui reconnaît qu'il y a un créateur, alors il y a rire. Mais rire au présent, rire au futur, c'est pas du tout la même chose. Bon, je vais faire ma parenthèse. Alors, comme je l'ai dit, Abraham serait à Shalom Arshad. Mais Sarah, qu'est-ce qu'elle serait? Non, Garesh. Dans quel parti politique elle serait? Qu'est-ce que ça veut dire, Garesh? Transferte, tout simplement. Et on est arrivé au stade où il faut dire les choses en clair. Vous comprenez, puisque vous avez posé la question. Et le conflit actuel en Israël, c'est pas un peuple qui se révolte pour avoir des droits, il ne s'agit pas de ça. C'est deux peuples qui luttent pour la même terre. Et ça se dévoile que c'est ainsi. Alors c'est une. Et il faut en prendre acte. Surtout que l'on entend ce que les autres disent. Bien, ça prendra les péripéties que ça prendra, et nous ne sommes pas les Européens en Amérique, ou les Européens en Afrique, ou les Américains ailleurs. Nous sommes Israël, nous avons une loi, il faut la vivre, et c'est pourquoi nous supportons ce que nous supportons. Il faut avoir les yeux ouverts. Et alors, Dieu intervient. Et qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Écoute la voix de Sarah. Ça veut dire que Dieu a pris parti. Est-ce que c'est clair? Bon. Alors, c'est-à-dire, si vous posez la question juste devant du texte, lisez la réponse qu'il y a dans le texte. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question, si vous voulez?